ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois M. Éric Saint-Pierre, il est fondateur de la Fondation Mira. Passionné par les chiens depuis son enfance, Éric Saint-Pierre a fondé Mira en 1981. Depuis, l'organisme a remis plus de 2000 chiens au Canada, en France, au Mexique et au Brésil. En plus des chiens guides pour les personnes ayant une limitation visuelle, Mira se spécialise aussi dans les chiens d'assistance pour les personnes vivant avec un handicap moteur et avec un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme. La contribution exceptionnelle d'Éric Saint-Pierre a été reconnue à travers divers prix, dont entre autres, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 1997, chevalier de l'Ordre du Québec en 2011 et la personnalité de la semaine de la presse Radio-Canada, toujours en 2011. Nous le recevons tout de suite après. Éric Saint-Pierre, très honoré de vous accueillir dans nos studios. Bienvenue.
Bien, merci de m'avoir invité.
Alors, Éric Saint-Pierre, c'est vraiment une carrière incroyable, fulgurante, mais pour donner aux autres. Mais avant d'aller dans votre fondation, Éric, parlez-moi de vous quand vous étiez petit. Comment vous étiez?
Bien, petit, j'étais pas grand. C'est une farce, c'est un genre de blague quand j'étais petit. Mais à ce moment-là, oui, j'ai effectivement, dès mon bas âge, été attiré et témoigné beaucoup d'affection pour les chiens. J'admirais mon père qui avait un contrôle extraordinaire et une relation privilégiée avec ses chiens à lui. Et j'en étais jaloux. Et compte tenu que j'étais le troisième des garçons et que mes deux frères avaient le droit de sortir et de rentrer un petit peu plus tard, on habitait sur une ferme.
C'est ça, beaucoup d'espace. Hein,
et c'était des longues marches pour aller soit chez les voisins ou finalement, à l'âge de 6 ans ou 5-6 ans, j'avais pas le droit de sortir avec eux. Donc, à ce moment-là, je me suis... mes chums, c'était mes chiens. Puis, finalement, je dormais dans une cabane à chiens, observais les femelles mettre bas. J'ai eu droit à toutes, finalement, les observations, le temps des amours chez les chiens, les bagarres qui venaient à ce moment-là avec, parce que les mâles visitaient les femelles et comme tout bon mâle, ben, c'était la guerre entre les mâles et c'était très impressionnant pour un petit cul et je regardais ça les yeux complètement éblouis par ce qui se passait devant moi. Puis ça m'a permis d'observer le comportement des femelles et de voir que les femelles de race canine ont aussi des préférences pour les mâles et vont attendre au tout dernier instinct pour accorder finalement leur corps au mâle qui vont avoir préféré. Et si ce dernier ne se présente pas, ben là, à ce moment-là, ils vont s'accoupler avec le plus gros mâle ou le plus fort.
Le plus fort.
Parce qu'ils ne laisseront pas passer une chaleur. La nature est...
Elle est comme ça.
Elle est comme ça,
Qu'est-ce que c'était comme race,
C'était, dans le temps, ce qu'on appelait sur les fermes des collets à vaches, qui étaient un mélange de collets pure race, un collet écossais qu'on appelait à ce moment-là, et du berger allemand, du bâtard. C'était vraiment le Heinz, mais la particularité chez les fermes, c'était les bases de chiens étaient souvent du collet et du berger allemand. Il fallait avoir un chien qui est assez corpulent, solide, puis pour être capable de gérer le troupeau, le bétail correctement. Là.
Donc, à 6-7 ans, donc, la passion se développe. J'ai l'impression que vous avez plus d'amis de chiens que d'amis humains.
Ben, j'ai pas plus d'amis de chiens que d'humains, mais j'aime les deux. J'aime beaucoup les deux. Mais je m'ennuie pas des humains réellement. Quand je suis avec mes chiens, je passe beaucoup de temps à zigonner après ça. J'entraîne encore, puis j'ai du plaisir à essayer de comprendre et de faire comprendre aux autres comment les chiens fonctionnent. J'ai passé ma vie dans ça, et quand, à l'âge de 30 ans, j'ai découvert finalement je pouvais utiliser mes talents que j'avais avec les chiens pour aider les personnes aveugles, mais là, à ce moment-là...
Ça a été fantastique,
j'ai
ça.
Eu la plus belle vie. Il faut dire qu'avant, je travaillais dans le domaine du chien qu'on appelle le chien de police, le chien de garde...
Le dépisteur, de drogue... De...
Ouais, ben, tout ce qui était potentiellement apte à nous faire gagner notre vie dans le monde du chien, c'est pas nécessairement facile, mais quand t'es passionné... tu trouves toujours les solutions pour endurer finalement les aléas qui sont dus à ton métier. Là.
Avant de trouver votre passion, vous en aviez une autre avant vos 30 ans, parce que vous avez déclaré, bon, la vie commence à 30 ans, vous avez eu une carrière, puis on va en parler pendant ces 60 minutes, mais il y avait la musique. Et là, vous avez même gagné un concours. Ça fait partie de votre vie aussi, c'est important.
Ben oui, ben oui.
C'était, donc, vous êtes allé faire de la musique. Ben, vous avez en disqué une chanson qui s'appelle Nathalie.
Vous
étiez bien parti au niveau musical.
Ce qui est arrivé avec ça, c'est un hasard. Écoutez, c'était la période, le début des Beatles, finalement, et... tout le monde avait ou à peu près une guitare par famille, et à ce moment-là, mon père, qui était un pitonneux d'accordéon, de joueur de sept carrés et tout ce qui tourne autour, finalement faisait que moi, j'ai peut-être reçu une partie de ses talents de l'oreille, puis je suis arrivé à apprendre les chansons assez facilement et à gratouiller ça sur la guitare. Après, évidemment, invité par d'autres musiciens parce que j'avais un peu de voix. Fait que là, à ce moment-là, je me suis joint à eux autres, puis mes talents de chanteur ont pris le dessus sur mes talents de musicien. Donc, après ça, je me suis fait découvrir par le même type Jerry Plamondon, dans le temps, qui avait sous sa gérance les sultans. C'était le temps de tous les aristocrates, les houlops, les classels.
Ça marchait fort, les sultans.
Et tout ça. Donc, moi, finalement, j'ai écrit la chanson Nathalie. C'était l'époque de Adamo. Il y avait des similarités dans nos styles. Puis, à un moment donné, ça a fait de moi une révélation en 67 avec
révélation de l'année, hein,
avec
c'est ça.
Nanette Workman.
Ben oui, c'est ça. Tout est... Et puis bon, je pense qu'il y avait aussi une question de publicité que vous avez fait, puis finalement l'Union des artistes a pas voulu la passer.
Ouais, ce qui est arrivé, c'est que c'est comme dans la vie, on élimine les adversaires le plus possible. Et finalement, moi, je me suis fait prendre au piège. Il y a un impresario qui a dit « j'ai un bon tuyau pour toi. » Il y a la compagnie Mekin Erickson, qui était une compagnie qui faisait des jingles pour Coca-Cola. Puis ils m'ont dit « écoute, viens enregistrer ça, il n'y a pas de problème. » J'ai dit, j'ai pas mes 20 permis de l'Union des artistes. Je crois que j'en avais 19. L'impresario a dit, fais-toi-en pas. Tu vas passer à Genèse aujourd'hui, en fin de semaine ou l'autre au plus tard. Puis on sortira pas l'enregistrement avant que t'aies ton 20e permis. Puis finalement, ils m'ont baisé.
Bon.
Ils l'ont sorti et moi, j'ai été révélation et j'avais pas droit de faire de TV ni rien pendant un an. Que j'avais tout ce qu'il fallait pour finalement renforcer ma carrière et en profiter financièrement. Mais j'avais pas droit de chanter dans la grande région de Montréal, les grandes villes, Québec et compagnie.
Mais dans un sens, comme ils vous ont eu, mais dans un sens, vous avez fondé quelque chose d'extraordinaire. Votre vie a pris un autre tournant qui est tout aussi fabuleux. Là, je veux dire, ce que vous avez fait, c'est arrivé. Vous avez arrêté le métier parce que l'Union des artistes a été trop strict là-dedans.
Puis aussi, il faut dire que j'étais pas vraiment faite pour ça. J'aime beaucoup écrire. J'écris encore des chansons, j'écris beaucoup de poésie. Ça, j'aime ça. C'est mon hobby, mon petit secret, mes petites affaires. Je me défoule avec mon crayon à mine, au plomb, encore régulièrement. Mais j'étais pas faite vraiment pour ce métier-là. Je vais vous sembler peut-être un petit peu cavalier en vous disant ça. J'ai toujours considéré ce métier-là où je l'ai mis sous l'emblème d'un métier de cœur dans un monde de cul. Et je pense que c'est resté. Il y a quelque chose qui est superficiel, beaucoup. Il faut beaucoup d'humilité et de pureté pour être capable d'arriver à travailler. Comme je regarde des filles comme René Martel, c'est pas le talent de René Martel qui me jette à terre, mais c'est sa franchise et son honnêteté envers son métier et ses admirateurs. Cette donnée-là, je l'avais pas. Je l'ai avec les chiens, avec le monde, avec les personnes qui sont ce que j'appelle les moins chanceux, les personnes qui sont venues au monde avec un handicap, puis c'est vraiment pas de leur faute, ni d'un bord, ni de l'autre. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup plus d'affinité avec ce métier-là que...
Qui est plus frais de vérité, paraître.
D'avoir un beau complet, puis que mes pantalons soient dernière mode, puis que je m'habille au château, puis que mes cheveux sont beaux, puis...
Autrement dit, tout ce qui est superficiel. On va dans l'émission, vous choisissez les chansons, mais vous sortez pas comme ça. Là, vous dites pourquoi Léo Ferret avec le temps. Pourquoi?
Parce que le temps, c'est quelque chose qui enrichit puis qui diminue. Ça l'enrichit l'âme puis ça diminue les possibilités du corps. Donc, il faut à ce moment-là être encore de plus en plus pointu. Quand le temps passe, le temps n'est pas un ennemi, mais il fait peur aussi. Parce qu'à un moment donné, on sent bien la différence. Moi, les années que j'ai trouvées formidables Et là où j'étais le plus performant à tous les niveaux, physiquement et je dirais aussi émotivement, mentalement et enthousiasme, y compris, j'étais finalement, c'est mes années entre 30 et 50 ans. Après, ben là, je veux dire, avec le temps.
Avec le temps, on l'écoute.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Éric Saint-Pierre, fondateur de la Fondation Mira. Éric, à un moment donné, ça a fait clic. Il y avait déjà les chiens qui sont arrivés dans votre vie à 7 ans. De toute façon, ils faisaient partie de votre vie. Mais à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, j'y vais. Je vais aider ceux qui n'ont pas la chance de voir. Je vais aider ceux qui sont à mobilité réduite. Et là, ça se fait comment, ça, ce mariage-là?
Ce qui est arrivé, hein, ça va vous paraître un petit peu bizarre. Ce qui est arrivé, c'est que je travaillais dans le domaine du chien. Je gagnais ma vie avec les chiens de garde, les chiens de police et tout ce qui en est autour de ça. Et finalement, à un moment donné, j'étais comme un peu tanné, hein? Déçu, fourbu, pas tout à fait à l'aise avec le fait de demander à mes chiens de faire des choses que je trouvais inutiles. On est à la radio et je pourrais faire une différence entre le chien de police, tout simple, et le chien guide, en vous montrant avec la main, avec le doigt, la différence entre un chien guide puis un chien de police. C'est comme ça que c'est comme ça que finalement les gens nous perçoivent.
C'est ça le côté rebelle, moi. Je le suis aussi.
Fait que tu vois, bon. Finalement,
il
y avait ça. Et moi j'étais très très content quand Suzanne Beausoleil, qui était une cliente à ce moment-là de Nazareth et Louis Braille, m'ont demandé d'aller donner mon opinion sur le chien que Suzanne avait reçu des Américains d'une des écoles en Floride. Et finalement, j'ai été forcé de constater que le climat était complètement inadéquat pour ce chien-là. Il n'y avait pas eu de préparation. Marcher sur les trottoirs à moins 10, il n'en venait pas. Le chien, le calcium, le sel, les cossins, ben ouais, tout ça, il ben était ouais. complètement déboussolé. Et là, je me suis dit, les chiens qui proviennent des États-Unis ne sont pas nécessairement élevé dans un environnement propice au Québec. Il faut dire aussi que...
Mais il n'y avait pas de toute façon d'école.
Oui, oui, il y en avait aux États-Unis.
Non, aux États-Unis, mais au Québec, vous avez été le premier.
Au Canada, on est les premiers.
Les premiers, oui. 1981, c'est la première, c'est l'année de la fondation. Et on n'a rien dès le départ. Là, vous êtes vraiment le précurseur, le pionnier d'une école qui va aider et qui continue à aider. Là.
Ça, oui, absolument. Puis c'est ça, c'est que finalement, il y avait la langue aussi. Parce que les aveugles québécois qui ne parlaient pas anglais n'étaient pas capables d'aller chercher un chien, à moins de quelques exceptions, d'aller chercher un chien aux États-Unis qui était offert par des organisations comme les Lions ou les optimistes qui aidaient à une partie du financement pour les chiens. Ils n'étaient pas capables parce qu'ils allaient recevoir et être dans une immersion complète d'anglophones et ne pouvaient pas à ce moment-là se prémunir de ça. Fait que, et pour la langue, les premières phrases, slogans qu'on avait à l'époque, c'était « je vois » en français. Fait que, tu sais, il y avait tout cet aspect-là aussi.
Oui, première école francophone, je tiens à le mentionner.
Exactement, ouais, exactement. Ouais. Qui est encore la seule en Amérique du Nord.
Alors, donc, la première école, donc ça se passe bien. Et puis, vous baptisez Mira pour Mirabelle. C'était qui, Mirabelle?
Mirabelle, c'est un labrador qu'on appelait Mirabelle. Et comme on a tout le temps tendance à utiliser des diminutifs, soit pour les enfants, soit pour les chiens, bien là, à ce moment-là, Mirabelle est devenue Mira. Et après, je me suis servi de ça pour me donner un petit peu plus, pour vamper ma culture en disant que Mira, ça voulait dire « regarde » en espagnol.
Mais vous ne le saviez pas, hein?
Non,
c'est ça que j'ai
début,
lu. Donc vous ne saviez pas du
non,
tout, mais c'est quand même un addon, comme
oui,
on dit.
Oui, oui, ben,
c'est incroyable, ça.
Finalement, un beau hasard qui a fait comme si c'était un peu prédestiné,
mais
je
sais
pas.
Tout à fait, tout à fait. Donc, le premier centre d'entraînement francophone pour les chiens guides au Canada, il faut le dire. Alors, au départ, ce sont des labradors, des bouviers bernois, mais En 91, il y a une nouvelle race que vous formez, donc les Labernois. Parlez-moi-en des Labernois.
Il faut dire au début, pour avoir croisé le Bouvier bernois avec le Labrador, j'ai dû subir l'excommunion.
Ah.
On m'a excommunié du monde des chiens parce que là, j'avais fait le sacrilège ultime, soit celle de croiser deux races pures. Et moi, je ris de ça, évidemment.
En bon rebelle que vous êtes, vous vous envoyez balader.
Écoutez-moi, je trouvais que les chiens avaient des qualités. Les Labradors, ce sont des chiens solides, des chiens qui sont confortables, dans le sens qu'ils ne sont pas compliqués. Tu n'as pas besoin de gants blancs avec eux. Si tu les corrige pour une action qui est indésirable et qui finalement n'est pas de leur faute. Ça peut arriver quand tu es aveugle. Bah, tu le touches la tête, tu lui demandes pardon, puis il te pardonne rapidement. Mais ils sont un peu sans dessin, un petit peu...
Ah, ils sont un petit peu sans dessin.
Ouais,
mais dans quel sens?
Ils sont un petit peu nono. Ils vont avoir besoin de vin. Tu sais, il y a une porte qui est là, avec le cadre de porte, puis tu vas leur montrer de faire attention avec toutes les techniques, puis à un moment donné... il y a une petite attirance de l'autre côté de la porte, puis ils vont oublier apprentissage. Tandis que le Bouvier bernois, c'est un observateur, c'est un chien berger. L'autre est un chien catégorie sportif, un chien pour les canards.
C'est un bon chasseur.
Faire la chasse et tout ça. C'est un très bon chien. Et le Bouvier bernois est un chien qui t'observe. Fais une erreur avec un Bouvier bernois, tu vas être obligé de te mettre à genoux, d'y demander pardon et d'avoir toutes les « excuse-moi, je t'ai pas fait, je t'ai pas fait exprès ». Ça va prendre des heures, et sinon des jours, avant de récupérer la bourde que tu as faite, surtout quand il ne la mérite pas.
On va à la pause publicitaire et on revient tout de suite après.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Éric Saint-Pierre, fondateur de la Fondation Mira. On parlait justement de la nouvelle race, même si tout le monde a dit « Ah, il faut pas mélanger deux pures races ». Donc, est arrivé le Labernois, un chien qui est donc spécial.
Là où la chance s'est produite dans mon cas, c'est... ordinairement, tu sais, quand on fait de l'élevage... On dit souvent une phrase en anglais qui est « breed the best with the best and hope for the best ». Tu sais, la nature, c'est plus compliqué que les souhaits des humains qui s'en servent. Fait qu'à ce moment-là, moi, là où j'ai été chanceux, c'est que j'ai pu finalement récolter dans ce croisement de deux races la solidité et la confiance du Labrador avec la subtilité du Bouvier bernois. Et ça a donné un chien qui est équilibré, qui est très, très, très intéressant à travailler avec, qui est confortable, il est gentil, il est intelligent, il est alerte et finalement très chanceux. Aujourd'hui, on est rendu plus loin dans le croisement de ces croisements-là. On tourne autour de la 4e à 5e génération. Et les chiens, maintenant, on a passé un souhait de plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Ils appellent les Saint-Pierre. Et moi, je leur dis, tant qu'ils sont beaux, ça ne me dérange pas, mais on va échanger de nom. On va échanger de nom s'ils vont pas bien.
Et obéissant, pas tout à fait.
Ouais, ils peuvent avoir des petits défauts.
Parce que l'obéissant, pas tout à fait, c'est ça qui fait votre charme, justement. Alors, les services... Alors, les adultes non-voyants, les sourds aussi, les adultes qui, ou les enfants qui ont une basse vision, la déficience visuelle et motrice, et également les enfants autistes. Comme ce n'était pas assez, en 2010, vous décidez d'ouvrir la Scola. Qu'est-ce que c'est la Scola?
La Scola, c'est une école finalement, a pour mission de venir en aide aux familles qui ont dans leur sein un enfant qu'on appelle autiste, hein, qui était un trouble envahissant du développement. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le chien, on sait que le chien fait un bien extraordinaire aux personnes aveugles. Il n'y a pas juste le fait de l'aide à mobilité et au déplacement, il y a aussi la présence de l'animal. Et cette présence-là fait aussi pour l'enfant qui est autiste et sa famille, fait aussi de très, très, très grands biens. Mmh. Et on a mesuré ça, on travaille avec l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec et l'Université Laval. On travaille avec des chercheurs ultra compétents en psychoéducation et finalement, on est arrivé à mesurer à partir du cortisol, on est arrivé à mesurer les bienfaits de la présence du chien dans le milieu familial. Et ça, c'est avec mon collègue depuis le début de Mira, Noël Champagne, qu'on a mis ça sur pied. Noël est un homme extraordinaire qui aime venir en aide à tout le monde, puis il n'y a pas de limite. Tout le temps, il croit au chien, puis il y a toujours une bonne raison pour m'influencer, pour que je fasse dévier un petit peu mon programme, pour être capable de servir le plus grand nombre possible de personnes. Et finalement, j'ai demandé à Noël, j'ai dit « OK ». Fais-moi un programme de recherche, mm-hmm. puis prouve-moi que, écoute, on ne donnera pas un chien comme ça, mm-hmm. parce que ça coûte quand même des sous, puis nos donateurs sont, il y a quand même des limites. Et à ce moment-là, Noël a passé à travers toutes mes exigences. Il m'est arrivé avec un programme qui a été bâti d'abord par un aveugle qui avait un doctorat en neuropsycho. Mm-hmm. Et finalement, ils ont bâti un programme qui a vraiment validé les bienfaits du chien dans le milieu d'une personne.
Puis, les témoignages, ils sont ceux qui ont un trouble de l'envahissant du développement, le TED. J'ai lu quelques témoignages sur le site. Il y a des gens qui disaient, mais c'est plus que thérapeutique. Les gens recommencent à sourire, ils ont un chien, puis ils revivent finalement. C'est plus qu'un accompagnement, c'est de la thérapie, là, qui
ouais,
carrément...
Écoute, il se produit quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas exactement pourquoi ça le fait. On sait qu'on a augmenté le sommeil chez ces enfants-là de façon très importante. Et vous savez comment le sommeil pour une mère... Et si le petit dort jamais, elle non
oui,
plus, elle
oui,
dort
tout
pas.
À fait. Oui.
Et finalement, ça, on s'est aperçu de ça. On ne sait pas encore les particules, les fibres qui font en sorte qu'on arrive à ces résultats-là, mais on se prépare sérieusement à le savoir et on reçoit l'aide d'une fondation fantastique qui est celle de Marcel et Jean Coutu, qui nous donne un coup de main phénoménal dans cette démarche. Mmh.
Parce que les bienfaits sont là. On va parler des chiens, du rapport, parce qu'il y a encore des marches à faire
au niveau de la société, quand il y a un chien qui accompagne une personne à mobilité réduite, des fois, elle se fait refuser des lieux publics. Comment on fait là, pour combattre ça? Parce que c'est terrible, on entend parler, et ça existe encore. Là.
Oui, oui. Bien, beaucoup moins que c'était quand on a commencé en 81. En 81, on avait, je sais pas, une classe de 5 individus et on n'était même pas capable d'entrer dans un restaurant pour aller dîner. C'était affreux.
Ben oui.
Affreux, affreux. Ben oui. Faut dire qu'à l'époque, le ministre Lazure a donné un coup de main extraordinaire. Lui, il était très, très, très proche du monde handicapé. Et il a été extraordinaire là-dessus. Et tous ensemble, comme je dis souvent, Mira, c'est le Québec qui l'a fait. C'est les Québécois qui l'ont aidé à la bâtir.
Ils ont cru.
Avec leurs 2 piastres. On est aussi une des fiertés du Québec. On est aussi encore soutenu par la population. On n'est pas une organisation financée par le gouvernement. On est encore le résultat de la générosité du grand public.
Et dans le cœur des Québécois, il y a eu un sondage dernièrement et vous étiez vraiment dans les premiers rangs, comme une fondation que les Québécois ont vraiment à cœur et y tiennent énormément. Alors, on parlait, c'est ça, au niveau des gens, quand ils se déplacent avec les chiens, parce que ça se voit pas forcément aussi quand on est, par exemple, avec un enfant qui a un TED, il va avoir un chien, il se fait encore refuser, mais là, ça y va, ça va très bien. De l'autre côté, comment nous, parce qu'on adore les animaux, quand on voit quelqu'un, c'est quoi les consignes qui...
Faut que vous souffriez.
OK.
La souffrance est de mise. D'abord, la souffrance dans le sens que vous aimeriez bien le
caresser.
Ben
voilà.
Vous aimeriez bien
c'est
le
ça.
Gâter.
C'est ça.
Et tout ça...
Le remercier pour le travail qu'il fait pour la personne.
Mais quand vous le remerciez, vous permettez au chien... d'avoir
ailleurs.
Du plaisir,
ouais.
D'être heureux, de manifester sa joie. Et à ce moment-là, dans le cas d'une personne aveugle, ben, c'est compliqué.
Ouais.
Son chien perd attention, elle se demande qu'est-ce qui se passe, elle vient un peu désemparée et pour ça, va être obligée de rappeler son chien à l'ordre. Donc, à ce moment-là,
on se retient.
Bah, vous êtes mieux.
On se retient. On ne peut jamais faire une caresse.
Bah, le moins possible. En tout cas, vous ne pouvez jamais, avant de demander la permission à la personne
c'est
qui
ça.
L'utilise,
ouais.
Et à ce moment-là, va enlever l'appareillage du chien et va le mettre à l'état de chien de maison. Et là, à ce moment-là, vous pouvez... modestement, avec minutie, le flatter, puis vous contenter une mini-partie de vos aspirations.
Bon.
Mini-partie.
Mini. Bon.
Très bon.
Bon. Alors, on écoute le prochain choix musical. Gilles Vigneault, Mon pays, pourquoi?
Mon pays, parce que c'est en partie à cause de mon pays que j'ai créé Mira. Et c'est pour mon pays aussi que je l'ai faite, dans le sens que les Québécois, comme je dis à l'époque, n'avaient pas de chien guide pour des raisons de langue essentiellement. Et à ce moment-là, pour ces raisons-là, ben je l'ai faite. Puis mon pays, c'est aussi la neige, parce qu'on a un climat qui est particulier.
Ah oui.
On vient de vivre... Imagine à 25 sous zéro ou 30 sous zéro en ville, c'est froid pour les pieds du chien, sérieusement. Fait qu'avoir des chiens qui sont capables de tolérer tout ça, ben ça prend des chiens bâtis pour mon pays. Comme je dis, nos chiens guides sont comme les skidoux de Bombardier. T'sais, ils sont faits pour
oui.
Cette...
Et ils ont un cerveau, eux.
Ah.
On l'écoute.
Ah. pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Alors, je veux rappeler, mesdames, messieurs, l'organisme MIRA compte maintenant 2 unités d'hébergement, une maternité canine, un chenil, une clinique vétérinaire, un pavillon administratif et la Scola. Donc, ça, c'est ce qu'ils font et ils n'arrêtent pas. Plus de 30 ans maintenant, MIRA a remis plus de 2000 chiens ce jour à des personnes qui ont une déficience visuelle ou une incapacité physique au Canada, en France, au Mexique et au Brésil. Donc, il faut les former, ces chiens. Ça prend combien de temps?
Pour former un chien, c'est autour de 2 ans. À partir de l'élevage, bébé, qui on garde les chiens 9 semaines. Après ça, on les place en famille pour les sociabiliser. Famille d'accueil qui font une job en passant extraordinaire. Salut et merci tout le monde.
Ça doit être difficile pendant d'avoir un an un chien.
Chez nous, c'est toujours...
C'est toujours difficile
chez nous.
Ben oui.
Pour le public de pas toucher au chien, pour les personnes qui ont eu le chien en leur compagnie pendant un an, de le remettre, ça aussi, c'est déchirant. Et à ce moment-là, après ça, pour les entraîneurs qui vont travailler entre minimum 6 mois à 10, 11 mois, souvent, pour être capable de faire le chien, de s'en départir, même si c'est leur métier, c'est toujours un peu déchirant. On braille plus souvent qu'à notre tour chez nous.
Je comprends, surtout quand il faut le remettre au bout d'un an, donc 2 ans. Au niveau financier... le chien, il faut en parler, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais là vous les donnez souvent. Et si il coûte combien là?
Si on prend l'ensemble de nos chiens, on en fait, l'année passée on a fait 220 quelques chiens. Si on prend l'ensemble des chiens, par unité c'est 30 000.
Mais vous les donnez.
Oui, c'est ça. Tantôt, tu as énuméré les bâtiments chez nous, les emplacements. On a aussi un bureau extraordinaire à Québec, Neuville exactement, qui est utilisé et pour le financement d'une partie de l'Est du Québec, mais aussi qui est une usine de tri et pour les cartouches d'imprimantes. Et les cartouches d'imprimantes, c'est très important.
C'est comme
chez
ça que
vous
allez chercher de l'argent. Hein?
Ça contribue, je dirais, moi, autour de 1 600 000 $ par année qui nous provient de ce département-là. Et tout le monde a des cartouches. Fait qu'au lieu de les mettre aux poubelles ou à la récupération, vous pouvez penser à MIRA.
C'est C'est ça. Alors, on va le mettre sur notre site. Ça s'appelle « Je recycle pour Mira, pour ma planète, récupération de cartouches, d'imprimantes et même de cellulaires ». Donc ça, c'est important parce que l'argent, vous l'avez dit, là, c'est beaucoup. Là, on va chercher pas mal d'argent pour donner directement à Mira. On en était au chien. On a eu vent cette semaine de quelqu'un qu'on connaît de très, très proche qui a eu quelque chose qui est tombé dans son bain. Et j'attendais de vous voir pour vous en parler parce que ça, ça fait partie de l'éducation. Elle était vraiment pas bien. Elle est tombée dans son bain, mobilité réduite, quelqu'un d'extraordinaire qui a une vie sociale incroyable et qui fait beaucoup pour tout le monde. Et elle a demandé, va chercher le cellulaire. Et c'est grâce au cellulaire que cette personne a eu l'aide. Qui sauvait la vie. Carrément, elle était dans son bain. Là.
OK.
OK. Ça, ça fait partie des tâches d'aller chercher des objets, ce que le chien doit... a ça dans son éducation?
Oui, 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 oui. On passe quand même beaucoup de temps, au moins essentiellement sur ça. Si on met toutes les petites périodes bout à bout, c'est un mois de travail pour arriver à leur faire prendre... bon, un cellulaire, c'est assez facile, mais des clés, c'est le métal étant un peu répugnant pour le chien, c'est plus difficile... ouvrir des portes en tirant sur la porte, tirer sur les manches du manteau ou de la veste, et tout, évidemment, aider au transfert de la chaise au lit ou en tout cas, transfert quelque nature qu'il soit, de utiliser le chien pour s'appuyer sur lui. Les chiens font un job extraordinaire. Puis, ils sont bien aussi. Il ne faut pas que les gens les plus amoureux, inconditionnels du chien, quand il ne faut pas penser que le chien est malheureux. Le chien est tout le temps en présence de la personne. Ça devient une symbiose indissociable et c'est vraiment Alors, une belle vie pour le chien aussi.
Des histoires comme celle de cette semaine, Éric Saint-Pierre, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez que le chien a sauvé la vie de cette personne-là?
Je me dis que je peux faire encore des péchés mortels, je suis clean.
Ça fait longtemps que c'est acheté là au paradis. Hein? La voie directe. C'est ça. Le billet est acheté, voie directe.
Mec, j'arrive en haut, je m'ai montré les clés.
Il y a du monde, là.
Les clés sont à la porte, Peter.
Alors, on va dire, parce qu'il y a quand même l'argent, il y a quand même une bataille à faire. Il y a les cartouches, il y a en achetant du chocolat également qu'on peut donner. Et il y aura un souper gastronomique, le temps d'un repas, où il y aura des convives dans l'univers d'une personne aveugle, dans le noir. C'est au centre communautaire Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 27 mars à 18h30. Il y a également une soirée beauté divine qui s'appelle « Ce que femme veut ». C'est à bel oeil, donc des trucs et des conseils, des astuces pour partager. Est-ce que c'est difficile d'aller ramasser de l'argent, Éric Saint-Pierre?
C'est permanent, c'est-à-dire c'est toujours. Écoutez, si on prend l'entreprise puis on la divise vraiment rationnellement, le facteur le plus important, c'est la clientèle. L'élément, plutôt que le facteur, l'élément est primordial. C'est la clientèle, c'est le service offert à cette clientèle-là, c'est la disponibilité puis l'ouverture des intervenants. En deuxième lieu, hein, on ne peut pas ne pas penser à l'argent. Si on n'a pas de sous, on n'arrivera pas... On ne peut pas avoir tout gratis. On arrive à la station d'essence, il faut payer, on s'achète des voitures, même si on nous donne souvent des rabais extraordinaires, mais il y a quand même beaucoup de sous qui sont générés. On a aussi 100 employés. Donc, à ce moment-là, la clientèle, l'argent, et en troisième lieu, finalement, si on regarde l'ensemble de tout ça et on les réunit, finalement, il nous reste tout simplement la mission et le développement de Mira. C'est ce qui est important de voir, c'est il faut que l'organisation s'ajuste avec les nouvelles valeurs. C'est dans mon temps, quand j'ai commencé Mira, un élève qui avait un handicap majeur, comme celui de la cécité, mm-hmm. aller à l'université, c'était phénoménal, mm-hmm. dans le sens que ça lui prenait 3 à 4 fois le temps accordé ou que prend quelqu'un de normal, conçu, mm-hmm. sans handicap. Et si on regarde aujourd'hui avec l'avenue de l'électronique, il faut faire attention que les personnes ne passent pas devant les personnes en état de santé parfaite. Il y a tellement eu d'améliorations, c'est tellement rendu disponible, mais la cécité reste là, le déplacement reste là, mais nous, il faut être capable d'être à jour. Et ça, c'est le bout qui va faire que Nicolas, qui est mon fils, va prendre la relève.
Il est déjà là depuis le début. Hein, il vous regarde aller, puis lui, c'est comme, bon, il a vécu avec les chiens.
Obélix,
il est allé exactement dans la potion magique. Il a regardé son papa, puis c'est lui qui va prendre, c'est le cas de le dire, les rênes, les guides.
Il a déjà les rênes.
Oui, parce qu'il est directeur général de la Fondation.
On est vraiment, puis des fois, moi, je trouve ça dur, évidemment. Pas parce qu'on regarde la même porte qu'on la voit de la même façon.
Parfois, on est plus dur avec nos enfants aussi.
En tout cas, il y a toutes sortes de choses. Même ça, il ne faut pas en parler. Mais tu vois, donc, c'est d'être capable de s'adapter. Tout est en mouvement. Il n'y a rien d'acquis chez Mira. C'est tout le temps à refaire. L'expression de 100 fois, je mettrai... mon ouvrage sur le moulin, pourquoi j'avais choisi dans mes choix musicaux Take Five, c'était justement
pour ça.
Parce qu'on recommence tout le temps.
On l'écoute quelques notes parce qu'on revient avec le jeu questionnaire. Éric Saint-Pierre, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
L'inspiration de la plupart des personnes qui m'ont donné ce feeling, c'est les personnes handicapées. Je me souviens de mes premiers clients. J'avais eu une éraflure assez sérieuse sur une des voitures qui m'avait été donnée et j'étais malheureux. Et finalement, j'ai embarqué la personne avec qui j'avais à travailler. Il me dit, Éric, t'as l'air un peu triste, je te sens différent. J'ai dit, oui, on vient de recevoir une voiture, une flambant neuve, et il y a un con qui m'a reculé dessus, il a brisé l'aile. Il m'a regardé, il me dit, moi, je trouve qu'elle va aussi bien qu'hier.
Les livres que vous nous recommandez?
Le Petit Prince à tout le monde.
Bien. Les artistes que vous aimez?
Les artistes que j'aime, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes que j'aime. Jacques Brel, tiens, c'est un de mes favoris.
Et les villes que vous nous recommandez?
Ah, moi, j'aime beaucoup la ville de Québec. J'adore San Francisco, évidemment, en amour avec Paris.
Merci beaucoup pour avoir passé une heure avec nous. Et merci pour ce que vous faites.
Tout le plaisir était pour moi.
À la réalisation de l'émission Jean-Sébastien La Liberté, recherche Christiane Campagna, aux médias sociaux Claudia Benoît, c'est Sophie Stanquet qui vous parle. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.